Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Liberté négative et volonté d'égalité avec Ruvain Nogia. Comment définir la liberté ? Est-elle sans bornes et sans normes ? Nous permet-elle d'imposer, dans certaines circonstances, notre loi à autrui ? Et quelles sont les puissances légitimes pour limiter la liberté ? La puissance de l'État ? Ces questions sont au cœur de l'essai que Ruvain Nogia vient de publier aux éditions Gallimard, folio essai « L'État nous rend-il meilleur ?» avec en couverture une étiquette « Nuit gravement à la santé ». Merci Ruvain Nogia d'être avec nous. Vous êtes un invité régulier des questions d'éthique pour notre plus grand plaisir. Et cet entretien va nous donner l'occasion de reprendre un certain nombre de vos thèses et d'en montrer toute la portée. D'abord, votre livre apporte une critique d'une définition courante et commune de la liberté politique pour en proposer une autre, plus étroitement associée à la notion de liberté individuelle.
Oui, en effet, le but de mon travail était au fond de réhabiliter une certaine conception de la liberté politique qu'on appelle la liberté négative, qui a été associée à certains courants du libéralisme dans les années 60, puisqu'elle a été développée, formalisée par le philosophe anglais Isaiah Berlin. Mais c'est une notion qui avait déjà été expliquée, définie par Benjamin Constant dans son opposition entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Et cette notion de liberté négative est une notion qui est assez restrictive, qui paraît assez pauvre, minimale de la liberté politique. Et elle consiste au fond à définir la liberté comme étant le fait de ne pas être soumis à la volonté d'autrui. Et du fait qu'elle implique autrui dans sa définition, que ce soit les autres de la société ou l'État en tant qu'institution, elle s'oppose à la conception, disons, métaphysique, je dirais, de la liberté, qui ne s'intéresse non pas à ce qui est désirable ou indésirable, ce qui est obligatoire, permis, interdit, mais à ce qui est possible ou impossible, nécessaire ou contingent. Donc je me suis intéressé à la liberté politique en tant qu'elle essaie de déterminer ce qui est obligatoire, permis ou interdit.
Alors j'insiste sur l'importance de cette thèse parce qu'on a quand même tendance communément à associer à la notion de liberté politique un contenu riche de la liberté et pas un contenu qui se limite à la non-interférence d'autrui. Donc vous prenez le contre-pied de cette habitude en soulignant que la liberté négative est une véritable définition de la liberté politique au sens où c'est la notion de liberté qui est la plus désirable dans le contexte d'une vie politique, d'une vie en société. J'insiste sur cette thèse qui est tout de même pas déjà un véritable engagement.
J'essayais de montrer qu'il y avait différentes conceptions de la liberté politique et que parler de politique en ce qui concerne la liberté ne signifiait pas nécessairement s'orienter vers l'idée d'une vie en commun, d'un projet collectif, d'une visée vers le meilleur, vers celle de l'amélioration de soi-même, tout ce qu'on met derrière l'idée de liberté positive. Et considérer que la liberté négative, c'est-à-dire l'absence d'interférence d'autrui dans nos vies ou l'absence d'obstacles à ce que nous voulons, n'est pas quelque chose qui va contre la liberté politique, mais c'est une autre conception de la liberté politique qui s'oppose à cette conception riche et positive de la liberté politique qui occupe, je crois, tout l'espace de la pensée politique aujourd'hui. On envisage toujours l'idée du politique comme celle du vivre ensemble, de l'être en commun, du collectif, de l'action en vue de l'amélioration, et on exclut l'idée de la liberté négative, cette idée minimale du champ du politique.
Dans la définition de la liberté négative, vous dites les contraintes qui portent atteinte à notre liberté négative sont purement extérieures. Ce sont celles que nous impose la volonté d'autrui. C'est-à-dire, vous excluez par là toutes les contraintes que nous pourrions considérer comme légitimes et qui viendraient de nous, notre liberté consistant à dominer ces contraintes. Alors là, vous vous inscrivez clairement contre la définition commune de la liberté positive.
On peut résumer cette opposition dans une formule que Isaiah Berlin emploie d'ailleurs, c'est que ou bien nous concevons la liberté comme nous affranchir de nos chaînes et ne plus avoir de maître, ou bien définir la liberté comme être maître de soi.
Et qu'est-ce que ça veut dire être maître de soi?
De ses passions, de ses désirs non réfléchis, de ses croyances fausses, disons de tout un ensemble d'états mentaux qui sont dirigés vers le faux, vers l'indésirable.
Mais ça veut dire concrètement qu'on peut être libre en apparence, sans subir d'interférences, de domination ou quoi que ce soit, tout en étant complètement esclave si on est dominé
esclave
par
ses passions.
Ses pensées fausses, ses désirs, ses pulsions, etc.
C'est-à-dire que, oui, il y a en effet cette idée dans de la maîtrise de soi qu'on réhabilite une opposition très ancienne dans l'histoire de la philosophie entre la liberté et la licence.
Donc, pour revenir à la définition de la liberté positive, il y a en effet cet aspect très important, mais qui appartient fortement à la tradition philosophique de maîtrise des passions et des désirs, mais un autre sens très fondamental qui est au cœur précisément de la liberté des anciens, telle que la définissait Benjamin Constant, c'est-à-dire la capacité de participer à un projet politique.
Oui, ça aussi.
Les deux n'étant pas conceptuellement en rapport de manière évidente, peut-être.
Oui, vous avez bien raison de le préciser. J'ai essayé de montrer qu'en fait, dans un article extrêmement célèbre du philosophe canadien Charles Taylor, dont le titre était « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la liberté négative ?» essayait de mêler, en effet, ces deux aspects qui, en fin de compte, rendaient sa critique assez confuse. Il parlait à la fois de la liberté positive comme maîtrise de soi, maîtrise de ses passions, maîtrise de ses désirs, et aussi comme la participation politique et la soumission à certaines obligations politiques, et surtout cette tension vers le vivre ensemble, le bien commun et l'amélioration non seulement de sa vie personnelle, mais celle de la communauté à laquelle on appartient. Il y a une visée de la liberté positive, qui est une visée communautaire, une visée dans laquelle le bien dont il est question, ce bien positif, ce meilleur, est celui de la communauté, pas simplement celui des individus. Et l'argumentation glisse dans le texte de Charles Taylor de l'une à l'autre. Sa conception de la liberté positive est une conception dans laquelle le bien qu'on doit viser pour être libre n'est pas simplement notre bien personnel, mais aussi de la collectivité à laquelle nous appartenons.
Alors, nous n'allons pas poursuivre l'analyse philosophique sur ce point trop loin, parce que ça deviendra extrêmement technique, mais je crois qu'il est tout à fait important que pour nos éditeurs de comprendre que ce qui caractérise de la manière la plus forte le concept de liberté positive, c'est précisément que la compréhension de la liberté est nourrie d'évaluations normatives. Est-ce légitime? Est-ce non légitime? Vous pensez que c'est totalement non légitime pour définir la liberté? À ce stade, nous n'allons pas nous prononcer sur cette question, mais il reste que ces déterminations normatives ou conceptuelles sont très fortement présentes. Et il n'y a pas de conception de la liberté positive, en quelque sorte, qui soit donnée et non consensuelle. Elles sont nourries d'options philosophiques. Oui. Tandis que la notion de liberté négative paraît assez claire, pas d'interférence d'autrui. Et là non plus, me semble-t-il, la liberté n'équivaut pas à la licence, parce que la licence, c'est faire tout ce qu'on veut, tout ce qui plaît, pour reprendre l'étymologie latine. Or, la liberté négative est une liberté limitée par le système de coexistence politique, qui est due à la présence d'autrui et aux légitimes aspirations d'autrui. Donc la différence liberté-licence vaut pour les deux concepts
dans
de
la
liberté.
Dans la mesure où la licence, en fait, telle que je la conçois, implique également le fait de se nuire à soi-même, de se suicider, de se droguer, etc. Bon, c'est une partie que j'essaie de développer parce qu'en effet, cette implication dont vous parlez, elle est importante. Il faut répondre à cette question. Donc, lorsque j'essaie d'opposer liberté-licence, c'est aussi parce que dans la tradition philosophique, la différence entre le rapport à l'autre et le rapport à soi n'est pas toujours très clairement établie. C'est le cas chez Locke, qui, entre autres, condamne le suicide. Donc, j'ai essayé de distinguer vraiment très clairement les deux et de laisser cette liberté de faire ce que nous voulons de nous-mêmes, à laquelle je tiens, et qui fait partie de la conception que j'essaye de défendre en général, tout en reconnaissant, bien sûr, comme vous l'avez souligné, que les limites de cette liberté, c'est la liberté de l'autre, le fait de ne pas lui causer de tort.
Alors, revenons à la notion de liberté négative, qui est une notion en fait beaucoup plus complexe qu'il ne semble. La non-interférence d'autrui ne suffit pas à en résumer la richesse conceptuelle. C'est une situation que vous remarquez d'emblée en faisant référence à des travaux d'autres philosophes contemporains. Nous pouvons nous trouver dans une situation de domination, une situation d'esclavage par exemple, sans tout en étant abandonné dans un jardin et sans que nul n'exerce la moindre interférence sur nous. C'est pas pour autant que nous serions libres, même au sens négatif. Alors, comment peut être approfondie ou rendue plus complexe cette notion de liberté négative ?
La critique la plus systématique, la plus intelligente, qui, je pense, qui a été faite de la notion de liberté comme non-interférence, l'absence d'obstacle à nos actions, à ce que nous voulons, qui était la définition de Isaiah Berlin, a été proposée, entre autres, par le philosophe australien Philippe Pettit, qui essayait de nous faire comprendre que, d'une certaine façon, il peut y avoir non-interférence dans nos vies sans qu'il y ait, au fond, liberté, et qu'il pouvait y avoir des interférences avec la liberté. Alors, essayons d'expliquer cela. Il peut y avoir non-interférence dans nos vies alors que nous ne sommes pas libres si, par exemple, le maître, la personne dont nous sommes esclaves, est bienveillant, paresseux, négligent, nous laisse de côté, comme vous l'avez dit, dans notre jardin, ou oublie simplement d'intervenir. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas notre maître. Et si nous définissons la liberté politique comme étant celle de ne pas avoir de maître, eh bien, c'est une notion qui s'applique à tous les maîtres, même les maîtres paresseux, les maîtres bienveillants, ceux qui n'interviennent pas, ceux qui ont oublié de faire leur travail de maître. Donc voilà, une situation claire dans laquelle il pourrait y avoir, des situations claires dans lesquelles il pourrait y avoir non-interférence sans qu'il y ait liberté. Et à l'inverse, ces philosophes que nous avons évoqués considèrent que certaines interférences, en particulier celles de l'État ou de la société qui vont dans le sens de nos intérêts les plus profonds, ne sont pas des interférences qui font obstacle à notre liberté. Donc nous avons deux cas, l'un dans lequel il n'y a pas d'interférence mais nous ne sommes pas libres, et d'autres dans lesquels il y a interférence, mais nous sommes libres. Voilà en quoi a consisté la critique de la notion de liberté comme non-interférence. Et c'est ainsi qu'une autre notion de liberté négative est apparue, la liberté comme non-domination, qui consiste en fond à dire que la liberté, c'est ne pas avoir de maître, mais n'importe quel maître. Alors la deuxième partie.
Il peut y avoir des interférences légitimes, celles qui sont pour notre bien. Mais avec cette notion d'intérêt profond, ne retrouve-t-on pas quelque chose qui, au fond, est assez proche de ce que nous avions analysé dans les libertés
positives ? C'est exactement l'angle d'attaque principal de mon livre. On peut dire si c'est difficile d'apporter quelque chose à ces débats complexes, anciens, etc. Mais c'est essayer de montrer que cette deuxième partie, c'est l'idée qu'on reste libre si l'État interfère, mais dans le sens de nos intérêts profonds, est au fond une espèce d'emprunt illégitime à la notion de liberté positive et qui contenait exactement les mêmes inconvénients que la notion de liberté positive en général, la tentation du paternalisme, une certaine idée du perfectionnement humain qui est contestable, puisqu'il y a différentes façons de réaliser ce bien. Donc j'ai pensé que nous pouvions emprunter, ou si vous voulez, sauver la notion de liberté comme non-domination de cette idée de liberté positive, c'est-à-dire de la purifier complètement de l'idée de liberté positive, c'est-à-dire cette deuxième partie, que si l'État ou la société interfère dans le sens de nos intérêts profonds, alors nous restons libres. Ça, c'est ce dont j'ai voulu me débarrasser alors, pour ne conserver que la première partie.
Ça veut dire, et c'est quand même une rupture par rapport à une certaine tradition philosophique, qu'il est faux de prétendre que nous sommes libres quand nous nous soumettons à des lois légitimes. Parce que certains,
je crois que c'est
le plus célèbre, le grand philosophe du XVIIIe siècle que nous connaissions bien, Jean-Jacques Rousseau, avait élaboré une thèse assez proche de celle-ci, c'est-à-dire qui était une sorte et qui d'un point de vue moral est évidemment tout à fait qui marque très profondément les inspirations kantiennes de la philosophie politique, la soumission aux lois que nous nous sommes prescrites ou aux lois que nous considérons comme légitimes est une des formes de notre liberté réelle. Vous considérez d'une part, que ça ne fait pas partie en tant que tel, ce n'est pas un élément conceptuellement qui définit la, la liberté. Et par ailleurs, vous considérez que cette capacité de se soumettre aux lois n'a pas en elle-même une valeur morale.
Non. Et je pense que c'est l'aspect, disons, le plus, celui qui me pose le plus problème au fond, puisque je connais la profondeur de cette tradition rousseauiste contre laquelle j'essaye de proposer des arguments. Et je sais que c'est très, très difficile. Je suis pas tout à fait certain d'avoir réussi, au fond, à construire une argumentation convaincante pour montrer que la liberté politique doit être complètement séparée de l'obligation politique. C'est une chose qui est très importante pour moi. La soumission aux lois, même aux lois que nous nous sommes données, à notre propre volonté, puisque c'est ainsi que c'est formulé, n'est pas la liberté.
Alors, est-ce que la notion de légitimité peut servir à résoudre cette difficulté, en tout cas à la faire peut-être mieux saisir son contour ? C'est-à-dire que la nécessité de se soumettre à des lois qui sont dans un pays démocratique, elles sont par principe considérées comme légitimes, amène à reconnaître la légitimité de ces lois sans pour autant leur reconnaître une valeur morale et sans les reconnaître, sans leur donner le statut d'élément conceptuellement fondateur ou caractéristique de la notion de liberté.
Oui, je pense que la notion de légitimité, là aussi, pourra être séparée de celle de liberté politique. Au fond, cette idée que nous sommes libres lorsque nous soumettons à des lois que nous sommes données nous-mêmes dans un contexte politique, c'est-à-dire dans le contexte d'un vote, d'une collectivité, pose toutes sortes de problèmes que la pensée anarchiste, d'ailleurs, a essayé de mettre en évidence, qu'il ne pouvait pas y avoir d'unanimité, qu'il y aurait de toute façon une certaine partie de l'ensemble de ceux qui ont participé à l'élaboration de ces lois qui n'auraient peut-être pas le même degré d'adhésion que les autres aux lois qu'ils ont votées et qui pourraient peut-être ressentir cette soumission comme une forme d'interférence qui portera atteinte à leur liberté. Mais je ne suis pas allé dans ce sens-là, en fait. J'ai simplement essayé de donner quelques exemples, comme bon, j'aime bien le faire, en me demandant si l'une des conséquences de cette notion de liberté comme soumission à des lois que nous sommes données à nous-mêmes ne nous contraindrait pas à penser qu'une personne qui se retrouve enfermée en prison à perpétuité pour des lois qu'il a votées lui-même serait libre. C'est ce genre d'argument. Alors, je sais qu'on retrouve dans Rousseau cette idée qu'il devrait y avoir écrit à la porte des prisons vous êtes,
ici on est libre.
Ici on est libre. Mais en fait, moi, quand on lit sa note, c'est pas exactement ce qu'il veut dire. Il veut dire plutôt que la prison garantit la liberté. Mais ceux qui
de
ont
tous,
fait cette lecture, oui.
Pas nécessairement
mais,
de celui
mais
qui
il y a eu
prisonnier.
Des lectures de Rousseau qui sont allées dans ce sens-là. Il ne faut pas l'oublier. Que c'est à sur les portes des prisons que le sens de liberté est le mieux compris.
Là encore, malheureusement, nous devons interrompre l'analyse philosophique parce que vous dites dans un chapitre au titre fort amusant, est-ce que le slogan « Vive la liberté » est conceptuellement identique au slogan « Vive la soumission à des lois non arbitraires » Là, vous venez de parler de quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire la loi qu'on se donne à soi-même, bon, qui n'a pas tout à fait le même sens qu'une loi non arbitraire qui régit une communauté à laquelle on a globalement consenti par le fait qu'on reste citoyen de cette communauté. Donc c'est loin, on ne va pas reprendre la prosopopée du Criton de Platon, mais quelque chose de ce type s'y joue. Mais je voudrais, dans cette dernière séquence de notre entretien, qui laisse de côté bien des aspects de votre livre, des avancées, des critiques qu'on pourrait formuler aussi, et que je recommande livre que je recommande à tout lecteur de regarder. Je voulais vous citer pour un passage qui peut amener un approfondissement dans notre discussion. Je vous cite, puisque c'est l'endroit où vous avancez de manière la plus nette votre thèse. « La conception politique d'ensemble que je me propose de justifier dans ce livre découle de l'idée de liberté négative dans sa version minimaliste. » Là, c'est votre conception de la morale que vous souhaitez ramener à un ensemble minimal d'obligations et de normes. Elle est libertaire pour les mœurs et égalitaire du point de vue économique et social. Alors il est vrai qu'un lecteur non informé de l'histoire de la philosophie, qui connaît que des slogans, se dira « Oh mais je pensais que l'égalité et la liberté étaient souvent en conflit. Comment une même conception peut être libertaire et en même temps égalitaire ?» Et on voit que l'égalitarisme que vous avez en vue est quand même un égalitarisme assez radical.
Alors, au fond,
qu'en est-il de ces deux pistolets qui tirent l'un contre l'autre, comme le disait Pierre Leroux, que sont la liberté et l'égalité ?
Dans la tradition, d'ailleurs, aussi celle d'Isaiah Berlin, qui a une certaine conception du pluralisme des valeurs, une notion qui n'implique pas que toutes les valeurs pourraient être unies et qu'elles pourraient être en conflit. La liberté et l'égalité sont parmi celles qu'il a l'habitude de citer comme étant finalement nous entraînant dans des directions opposées. J'ai eu l'impression que cette façon de repenser la liberté négative comme non-domination, c'est-à-dire comme le fait de ne pas avoir de maître, impliquait par elle-même l'idée d'une certaine forme d'égalité entre les personnes, au moins de façon négative, c'est-à-dire nous n'avons pas de maître, personne n'est notre maître. Donc la notion de liberté politique, telle que je la conçois, c'est-à-dire comme non-domination, elle est nécessairement liée à celle de l'égalité. Ce qui m'intéressait, c'était de donner un contenu plus précis à la notion de non-domination. J'ai essayé de le donner en essayant de la débarrasser de tous les aspects positifs, mais aussi de la caractériser par de trois façons différentes, en disant qu'elle devait nous mettre à l'abri de l'exploitation d'autrui, qu'elle devait nous mettre à l'abri de la persécution d'autrui et qu'elle devait nous mettre à l'abri de la liquidation d'autrui.
Alors, prenons, par exemple, ça c'est pour les deux derniers, nul ne pourra en contester, mais prenons la notion d'exploitation, par exemple. Exploitation de qui, par qui et dans quel contexte? Parce que tous ceux qui protestent contre les réformes fiscales au nom de la liberté négative, qui est quand même un grand thème de toute l'inspiration des luttes politiques, protestent au nom de ce qu'ils considèrent être une forme d'exploitation. C'est-à-dire leur travail est exploité de manière, selon eux, abusive.
C'est un sujet que j'essaie d'aborder en examinant les thèses de Robert Nozick, qui est un libertarien, qui considère en effet que la taxation exagérée ou celle qui vise non pas à alimenter l'État pour ses tâches minimales de protection des frontières et de sécurité, etc. Donc tout ça relève.
Ruben Ogier, sans aller jusque-là, il ne s'agit pas de contester l'absence de taxation au-delà des protections de l'assurance des fonctions régaliennes de l'État, d'admettre la taxation, mais de contester le principe d'égalité au nom duquel cette taxation se fait. C'est-à-dire demander à participer activement à la définition de ce concept d'égalité, qui est fortement normatif. C'est un concept moral.
Alors, vous nous avez mis sur le bon rail en discutant de l'exploitation.
La question se pose. À mes yeux, non. Mais
je voudrais revenir sur cette idée de liberté négative que j'espère à la fois avoir enrichi en intégrant cette notion de non-domination et considérablement appauvri en la débarrassant de tous ces aspects positifs. Donc il y a ces deux aspects.
Mais en même temps, vous la lestez d'une exigence d'égalité d'un souhait de fonctionnement de cette notion de la liberté positive dans un système où l'égalité serait réelle, enfin aurait une véritable existence. Je cite votre expression. Oui. Libertaire pour les mœurs, égalitaire du point de vue économique et social.
J'ai du mal à voir, si vous le voulez, comment une notion de la liberté négative comme non-domination, donc une notion un peu plus riche que la notion traditionnelle d'Isaiah Berlin, permettrait, comme vous l'avez dit, de justifier la persécution des personnes.
La persécution et l'élimination. Là, restons-en
sur l'exploitation.
C'est sur la question de
l'exploitation.
L'exploitation, si tant est qu'on puisse la définir de manière rigoureuse.
Ce n'est pas une question facile. D'ailleurs, il n'est pas plus facile de définir clairement la persécution, enfin la liquidation, c'est la seule chose qu'on peut définir à peu près clairement. Et encore, on peut dire que dans certains cas, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis des crimes affreux, on peut comprendre les deux. Donc, aucune de ces trois notions n'est si claire. Exploitation, persécution, liquidation. En tous les cas, c'est ainsi que j'ai essayé de caractériser de façon concrète ma notion de non-domination. Et c'est en ce sens que je pense qu'elle nous ouvre à une pensée de l'égalité. Mais évidemment, du point de vue philosophique abstrait auquel je me place, il est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails concrets de ce que signifiait exactement le fait de ne pas être soumis à l'exploitation, à la persécution et à la liquidation. La seule chose que j'ai essayé de dire, c'est que le libéralisme politique traditionnelle extrêmement sensible à la persécution et à la liquidation et nous sert et nous protège bien avec les droits de l'homme au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en réalité, mais au moins nous avons une protection philosophique contre la persécution et la liquidation. En revanche, peut-être parce que c'est une notion plus complexe, nous avons moins de protection de l'exploitation et il faut se tourner du côté de la pensée ou de l'asservissement économique, de l'esclavage économique, etc. Là, il est moins évident que la pensée libérale classique peut nous servir de guide. Donc, j'ai essayé de montrer qu'il fallait l'intégrer, cette notion.
Mais en même temps, une définition de la liberté comme non-interférence et non...
domination.
Et non-domination... peut être revendiquée par des personnes ou par des groupes sociaux qui sont considérés en position économiquement favorisée. À l'intérieur d'une société, il peut y avoir des positions économiquement favorisées qui ne sont pas des positions de domination. Dans ce cas-là, ces personnes considéreront qu'une certaine mise en œuvre de l'égalité va directement à l'encontre du respect de leur liberté négative et se traduit par des actes d'interférence et de domination.
Oui, c'est une revendication qu'ils peuvent nous présenter, qu'on peut évaluer. J'y suis parfaitement ouvert.
Ce qui m'intéresse... Mais simplement, vous avez déjà donné le résultat de la confrontation, c'est-à-dire que ça devrait être égalitaire. Là, tout est ouvert. Si on doit examiner toutes les revendications, il n'est pas sûr qu'on arrive à un état de choses qu'on pourrait caractériser comme égalitaire. Ce sera peut-être beaucoup plus complexe.
Alors, si j'essaye de caractériser la liberté politique comme un état de non-domination, un état dans lequel nous n'avons pas de maître, il est vrai qu'en réfléchissant aussi sur ce que signifie la propriété, le fait d'être dépossédé des moyens de production, par exemple, ou d'autres choses qui sont traditionnellement évoquées dans la pensée égalitaire, mon sentiment à ce stade de ma réflexion, c'est que, en effet, on irait vers une forme, si on essayait d'éliminer dans la mesure du possible la domination par autrui, qui peut se faire par des systèmes institutionnels comme ceux de la propriété, on aboutirait quand même, je crois, à quelque chose comme une forme d'égalitarisme traditionnel. Mais je ne pense pas que c'est une position qui est la plus, la défendue de la façon la plus systématique dans mon livre. Ce que j'ai essayé simplement, c'est de dire, voilà, la liberté négative, enrichissons-la, parlons de non-domination, définissons la non-domination comme ne pas avoir de maître, même de maître bienveillant et paresseux. Ne pas avoir de maître, ça signifie être à l'abri de l'exploitation d'autrui, à l'abri de la persécution, à l'abri de la liquidation. Maintenant, si vous considérez que lorsque vous avez créé une entreprise qui est prospère, etc., et que vous empêche de le développer sans que vous n'exploitiez personne, sans que vous soyez maître de personne, eh bien, dans ce cas-là, cette revendication, je pourrais le reconnaître comme une revendication légitime dans le contexte de la conception que j'essaye de défendre.
Et dont le poids le plus fort, en effet, porte sur, à mon sens, le déplacement de cette définition de liberté négative comme dissociée d'une évaluation morale de la légitimité des obligations politiques et donc de la tendance à le considérer comme un élément fort de la liberté, même négative. Vous avez de manière très convaincante, je crois, reformulé la question pour rendre le concept de liberté négative plus rigoureux. Merci Ruven Augien pour cette discussion. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Jean-Michel Bernot qui était à la technique. Et merci à Marie Dalquier.
Défense de fumée dans les cafés. Défense de picoler sur la chaussée. Défense de traîner dans le métro. Défense d'oublier son sac à dos. Défense de marcher sur le gazon. Défense.
La semaine prochaine, nous parlerons du monde numérique et des différents supports culturels qui aujourd'hui existent dans le monde numérique avec Marc Tessier. Tout de suite, n'oubliez pas Marie Richeux pour pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous.